Chers invités et auditeurs de Radio Panique, bonsoir et bienvenue. Nous sommes dans le studio de Radio Panique à Bruxelles. Mon collègue Arthur et moi, Mohamed, on vous présente une émission de la rédaction qui va durer jusqu'à 20 heures. On va parler d'un sujet intéressant sur une autre langue et culture. Il s'agit de la langue et la culture arabe. On a invité deux personnes de l'Institut européen de la culture et la langue arabe ou le Centre culturel arabe, Madame Hawa Jabali. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Monsieur Daoud Alaoui. Bonsoir.
Bonsoir.
Le programme est le suivant. Des interviews individuelles, des musiques, une discussion collective, une lecture d'une histoire amusante, une conclusion pour chacun et la clôture de l'émission. Et maintenant, on va commencer les interviews avec Madame Hawa Jabali. Pourriez-vous vous présenter ainsi que l'Institut européen de la culture et la langue arabe?
Oui, je suis une Algérienne en exil. Et lorsque j'ai appris que Ali Khader voulait construire un centre culturel arabe, il avait déjà commencé. Je suis vite venue me glisser sous son bras. Voilà. Et nous avons donc commencé à construire le centre culturel arabe. Alors, présenter le centre culturel arabe, bon, c'est... À l'époque, c'était surtout parce qu'on constatait que pratiquement personne n'avait de contact avec la culture arabe. Et c'était aussi mettre la langue arabe à disposition des gens, du tout venant. C'était d'abord une première démarche. Voilà. Ensuite, les choses ont évolué et on le verra après, je pense, dans notre conversation. On arrive à autre chose maintenant aussi.
Quelle est l'histoire du centre?
L'histoire du centre, eh bien... fondé en mars 1988. Il va donner des cours, il va servir de librairie, il va faire des expositions, il va faire des concerts, il va faire des rencontres, il va faire des colloques, etc., etc. Voilà. Et non-stop, on en est à 34 ans, je crois.
Comment êtes-vous financé?
Nous ne sommes pas financés. Nous ne sommes pas financés du tout.
Madame Hawa Jabali, pourriez-vous nous dire qu'il y a des concerts de temps en temps? Pourriez-vous nous en parler? Quels sont le type d'événements ou de concerts que vous organisez?
Bon, alors c'est très varié, surtout actuellement, parce qu'il y a eu une période magnifique durant laquelle nous avions de très grands musiciens. Et puis, actuellement, bon, ces grands musiciens sont partis dans les pays arabes. Mais nous sommes toujours en recherche des talents. Et dès que nous en remarquons un, nous l'invitons, bien évidemment.
C'est quoi le centre d'études stratégiques?
Alors, là, je vais vous dire que l'avenir des pays arabes, hein, sur le plan national et international, est lié au développement de leur population, à l'organisation de leurs institutions et de leur capacité à faire face aux menaces futures et au succès de leurs projets. Pour cela, le travail du Centre d'études du monde arabe consiste à étudier les situations politiques, économiques, culturelles et sécuritaires dans le monde arabe, à préparer des recherches stratégiques qui accompagnent les projets visant à changer et à développer les conditions nécessaires propres à servir ces projets. Vous voyez, c'est assez ambitieux et c'est un rude travail.
Qui sont vos partenaires?
Nos partenaires? Eh bien, d'autres centres culturels arabes, laïcs. Par exemple, nous échangeons régulièrement avec le Centre culturel du monde arabe de Roubaix. Il y en a en France, il y en a dans d'autres pays. Et qu'avons-nous comme partenaires? Les partenaires culturels. Pendant des années et des années, le Centre culturel arabe a travaillé avec tous les grands organismes culturels de Belgique. Et bon, maintenant, nous allons voir. Et maintenant, nous nous tournons donc en conséquence de ce que je viens de vous dire. Nous nous tournons aussi vers les universités. C'est indispensable. Nous travaillons avec les universités.
Quelle université ?
Ah ben, l'ULB, en priorité. Hein.
Avez-vous des besoins particuliers ?
Des besoins particuliers ?
Oui.
Oui, nous aurions besoin d'être soutenus, dans tous les sens.
Comment peut-on devenir bénévole chez l'Institut ?
Oh ben, je pense que ce n'est pas si difficile que ça. Il faut se rendre à l'Institut, il faut se présenter, que ce soit physiquement ou autrement, et dire pourquoi on aimerait aider. Alors, bon, il y a des tas de façons d'aider ce centre, et les bénévoles seront les bienvenus, mais évidemment, un bénévolat très structuré, hein. Bénévole, mais avec un suivi, avec quelque chose de vraiment assez complet. Voilà. Et là, vraiment, bienvenue aux bénévoles. Hein. Bienvenue aux bénévoles.
Oui.
ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء.
حسنا بسرعة.
ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء.
الآن أسرع.
ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء.
رائع. الآن أنت تعرف الحروف العربية.
On vient d'écouter une courte chanson sur les lettres arabes. Et maintenant, on va commencer l'interview avec Monsieur Daoud Alaoui. Veuillez vous présenter.
Écoutez, je suis fils d'immigrés libanais, né dans l'exil. Je suis né en France et je suis né belge en France. J'ai vécu aussi un peu au Liban. Et je me suis retrouvé dans ma maison ici, au Centre culturel arabe.
Quelles sont les particularités de la langue arabe ?
Bah, écoutez, pour moi, la langue arabe, si vous voulez, j'avais un lien avec, bien sûr, avant d'arriver au centre, parce que j'avais fait un documentaire dessus avec un linguiste en Syrie. J'avais déjà trouvé devant moi un océan absolument extrêmement profond de cette langue qui, en fait, pour moi, ça c'était évident que c'était un outil. Et c'était un outil rassembleur, unificateur de beaucoup de toutes sortes de cultures différentes. Et pour moi, c'est un miracle qui n'a pas besoin de religion, en fait. C'est quelque chose de millénaire, c'est un outil millénaire. Et c'est pour ça que ça me passionne et c'est pour ça que voilà, je travaille dans ce centre.
Quel est votre intérêt pour la langue arabe ?
Bah, c'était ça ma réponse, en fait. Ça a commencé avec ce documentaire. Après, mon intérêt pour la langue arabe a évolué, bien sûr, dans le centre, parce que c'est un centre qui est quand même assez... il n'est pas seulement artistique, il est aussi académique. Donc, si vous voulez, l'étude sérieuse de la langue arabe implique l'histoire, l'étude de l'histoire. Et donc, ça m'a permis non seulement de découvrir cette langue littéraire extrêmement profonde, mais aussi de découvrir l'histoire de mon peuple et mes ancêtres, que ce soit pré-islamique ou pré-religieux, voilà.
Bonjour, Monsieur Diab Ali, pouvez-vous parler de l'école et de la langue arabe ?
De l'école et de la langue arabe. Bon, la langue arabe est actuellement, je crois, la sixième ou peut-être avant... Oui, la sixième. La sixième langue reconnue en Europe. C'est une langue ancienne qui a ceci de particulier, que c'est une langue logique. Si on parle du français, par exemple, c'est une langue historique. L'arabe est une langue logique et c'est quelque chose d'assez fabuleux parce que c'est la langue qui porte le mieux l'empreinte de la première des langues qu'on dit sémitiques, hein, bon, enfin, celle qui aura donné toutes les langues de l'Orient, de l'Orient arabe, hein, entendons-nous. Donc, l'arabe est porteuse, la meilleure porteuse de cette langue très très ancienne qui est l'acadien. Alors, en touchant à l'arabe, on touche évidemment et à des idées et à des concepts qui sont extrêmement enracinés dans l'histoire.
Et pour Monsieur Daoud, comment se passent les cours et les ateliers de calligraphie?
Nos cours de calligraphie, c'est un moment assez spécial. C'est avant tout un moment artistique de méditation. C'est l'étude du mouvement et de la respiration pour pouvoir écrire une lettre. Et c'est l'étude en profondeur de la mesure de chaque lettre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal de gens aussi qui ne savent pas parler l'arabe, qui viennent chez nous et qui commencent à écrire les lettres et qui essayent d'atteindre une certaine perfection. Donc nos ateliers sont très variés, il y a des gens très différents qui viennent chez nous et c'est des très beaux moments.
Pouvez-vous nous parler de la nuit de la poésie?
Alors la nuit de la poésie, c'est un événement qui se passe chez nous une fois par mois, en général la dernière semaine du mois, parce que comme a dit Madame Djabali, le centre, si vous voulez, a toujours eu la vocation de chercher les artistes, à chercher les perles autour de nous. Et donc la nuit de la poésie, c'est une scène ouverte qui, si vous voulez, sa base, c'est la poésie. Les gens vont lire des poèmes qui sont à eux ou pas, mais c'est assez théâtral, si vous voulez. C'est sacré pour nous. Cette scène est, voilà, la scène au centre est pratiquement sacrée d'ailleurs. Il y a tellement de gens qui sont passés par là. Et elle est ouverte, elle restera ouverte. Et c'est notre mission.
Le morceau vient de Warner Classic. Fatma Saïd, pouvez-vous parler du morceau, s'il vous plaît?
Parler du morceau, oui, c'est un morceau bien connu, mais ce qu'il faut, c'est écouter Fatma, parce que c'est une très très belle voix. Elle reprend un poème là qui est connu et aimé de tout le monde arabe.
تتبعت السواقي واتصلت
Et maintenant, c'est avec la discussion collective. Et la première question, comment avez-vous fait pendant le Covid?
Pour le Covid, ça a été assez rapide. On a tout de suite, vous savez, on avait des cours d'arabe en cours, on avait pas mal de cours qui étaient en train de se dérouler. C'était d'ailleurs justement la rentrée quand le confinement est arrivé. Et on a développer les cours en ligne directement. On s'est mis directement, on n'a pas interrompu les cours. Et petit à petit, on a eu beaucoup d'expérience grâce à ça, en donnant des cours en ligne. Et ça perdure jusque maintenant. Maintenant, on donne des cours en ligne ou hybride, c'est-à-dire en présentiel ou en ligne. Le centre a continué de fonctionner pendant toute cette période. Il ne s'est jamais arrêté. Donc voilà.
Sur le Covid, oui, ben voilà, on l'a supporté comme tout le monde, mais comme vient de dire Daoud, le centre est resté ouvert. Hein. Le centre a continué coûte que coûte. D'ailleurs, je crois que le centre continue coûte que coûte, quelles que soient les conditions.
Ouais, toujours, oui. C'est le simple fait, un centre laïque de ce calibre, son existence, c'est déjà un acte. C'est déjà du militantisme, faire en sorte qu'il existe, que cette vision à Bruxelles existe, parce qu'elle n'est pas, bizarrement, elle n'est pas répandue, la vision de l'arabité laïque, de ce monde absolument extrêmement riche qui a donné naissance aux plus grands artistes, ce monde. Donc on est les seuls, ici, à Bruxelles, à représenter cette mouvance, et on le fait... avec militantisme, avec force, et voilà.
Une petite chose que peu de gens savent, c'est que la racine de la laïcité, je dis bien la racine, vient des savants du monde arabe, et en particulier des savants andalous. Et ces savants étaient de milieux, d'ambiance, soit juives, soit chrétiennes, soit musulmanes, peu importe. Ils étaient tous en marche vers quelque chose qui était en quelque sorte la prise de responsabilité humaine. Et ça, c'est merveilleux.
Et quelle est l'importance de la langue dans la vie des humains?
L'importance de la langue, eh bien, c'est bien sûr, c'est essentiel parce que nous sommes des animaux, hein, comme les autres. Et ce grand singe fragile, un moment, tous les animaux ont un langage, mais tous les animaux n'ont pas d'articulation. Et l'articulation est essentielle. À partir du moment où nous avons commencé à articuler, nous avons affiné notre communication. Et le temps passe, les hommes parlent, et un moment, ils vont inventer quelque chose d'extraordinaire qui va faire que nous serons humains, vraiment humains, c'est la grammaire. On peut dire que l'être humain n'existe qu'à partir du moment où il utilise une grammaire. C'est-à-dire, à partir du moment où déjà il va définir le temps, passé, présent, futur. À partir du moment où il va définir les participants à la communication, les pronoms personnels, je, tu, il, etc. Et là, à partir de ce moment-là, nous devenons réellement différents de ce que nous étions au départ, et nous sommes humains, vraiment humains.
Je voudrais rajouter aussi que, moi, pour revenir à la langue arabe en particulier, moi je voudrais juste dire qu'il n'y a pas de langue qui puisse être comprise par tout le monde. Il n'y a pas de langage ni de message que tout le monde puisse comprendre. Le langage, c'est toujours quelque chose qui s'adresse à telle ou telle personne en fonction de ce qu'ils sont, de comment ils parlent, de leur bagage, etc. etc. D'ailleurs, plus on veut toucher les gens, plus on veut toucher de gens, plus la langue doit être archaïque. D'où voilà ce qu'on appelle l'art commercial. Mais pour la langue arabe, et c'est ça qui est étonnant, et j'en ai parlé avant, le miracle, c'est que, comme disait Madame Djabali, c'est une langue logique, donc c'est une langue extrêmement vaste au niveau du vocabulaire et de la grammaire, et même au niveau de son histoire. Mais elle a réussi quelque chose qui est quand même assez, assez fou, c'est de réunir autant de gens différents sur toute cette partie de la planète. Tout le monde parle arabe, tout le monde partage cet objectif qui est de se comprendre. Et voilà, ça pour moi, c'est la langue arabe, c'est quelque chose.
Oui, oui, 22 pays parlent arabe, écrivent l'arabe, et autour d'eux, et dans le monde. Hein. Ça pourrait, pour ceux qui le réalisent intérieurement, ça pourrait vraiment être quelque chose de magnifique.
Quelles sont les valeurs communes entre les cultures?
Ah, ça, c'est une grave question, les valeurs communes entre les cultures. Eh bien, je dirais que une culture, c'est à la base, c'est renoncer au mépris, c'est renoncer à l'agression, et c'est considérer l'être humain à la fois. Savoir que chaque être humain est unique et savoir que nous sommes finalement tous pareils. C'est assez particulier, mais chaque culture a développé cela. Et ça se sent très très fort dans les arts. Alors bon, dans tous les arts, hein, et dans la poésie. Tout à l'heure, nous écoutions une chanson de Khaled Gibran qui disait « Donne-moi une flûte et chante ». Et dans ce chant, le monde entier est contenu. Le fait de chanter, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Tout acte, je dirais, constructif, créatif, artistique, si on veut utiliser ce mot, c'est quelque chose que nous avons en commun. C'est-à-dire que toutes les cultures, je dirais, au sommet, c'est-à-dire dans ce qu'elles expriment de meilleur, toutes les cultures sont ensemble au sommet. Et les divisions n'existent que par manque de culture, que par manque de savoir, que par manque de l'autre. Voilà.
Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, toute la crise dans le monde arabe qu'on voit aujourd'hui, c'est justement parce que la culture s'effondre. C'est par manque de culture, c'est par manque de connaissance de nous-mêmes dans les pays arabes, de notre histoire. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas tous ensemble à se mettre d'accord sur une histoire commune. On est tous divisés, on est tous... Et voilà, cette crise elle, au Moyen-Orient, elle est avant tout culturelle.
Elle est culturelle parce qu'il y a des intérêts derrière, hein. Et ce ne sont pas que des intérêts arabes. Là, on peut dire qu'il y a aussi une grosse internationale de l'argent qui est derrière ça. Et ce sont ces gens-là qui ont intérêt à nous diviser parce que c'est beaucoup plus facile de manger des petits morceaux que d'avoir affaire à un bloc.
Et c'est d'ailleurs, je pense, toutes les cultures aujourd'hui qui sont en danger. Absolument toutes. Quand on voit la violence du monde de la finance et de la politique aujourd'hui, ce bulldozer-là, la première chose qu'il essaye de détruire, c'est la culture. Et la culture, c'est le rempart contre cette ignorance et ce vide, finalement.
Oui, quelque part, en fait, on pourrait dire que la culture, c'est la solidarité entre les gens. Bonsoir Daoud, bonsoir Ahawa.
Bonsoir.
Peut-être un souvenir particulier à partager par rapport au centre, qui s'est passé au sein de ce centre.
Oh, j'en ai plein de souvenirs. Oui, on va en tirer un. Il y a bien des années. Alors, nous faisions donc des expositions constamment. Et les écoles, les groupes, les associations venaient dans ces expositions. Un jour, nous avons exposé un peintre syrien qui travaillait suivant la technique de l'icône. Alors, quand on parle d'icône, on pense tout de suite christianisme, etc., etc. Et lui mettait cette technique au service de l'amour amoureux. Très bien. Donc, j'ai une énorme classe qui arrive, composée principalement d'enfants de l'immigration, de différentes origines. Et ils entrent. Et alors, le premier tableau qu'ils voient, c'est un... Comment dire ? C'est une femme nue jusqu'au bassin, avec un homme derrière elle qui tient un voile. On suppose qu'il est nu aussi. Il tient un voile entre les deux. C'était un très grand tableau. Les enfants sont d'abord stupéfaits, puis ils commencent à dire des saletés. C'est tout ce qu'on leur a mis dans la bouche, hein, en général. Ils commencent à dire des saletés. Et un moment... Je leur dis, oh mais vous n'y êtes pas du tout, vous n'y êtes pas du tout. Regardez bien, regardez comme ce tissu est fin, regardez la chaleur des corps. L'homme ressent la chaleur du corps de la femme ressent l'attirance du corps de l'homme. Bon, ça c'était un langage que normalement on n'utilise pas avec des petits et des adolescents. Mais ils ont été interpellés, et tout d'un coup... Je les vois disparaître au mi-étage. Ils vont chercher des chaises. Ils ramènent les chaises dans la salle d'exposition. Alors, ils s'assoient bien sûr, les bras sur le dossier, à califourchon, c'est normal. Bon. Et là, tout d'un coup, je vois une trentaine de gosses, le regard rivé sur ce tableau. C'était une trop belle occasion. J'ai commencé à leur parler de sensualité, d'amour, de désir. Ils écoutaient, mais c'était extraordinaire. J'avais peur de briser ce silence. Les instituteurs qui les accompagnaient ne savaient plus comment réagir. Et à voix basse, je leur ai demandé de se lever. Et nous avons fait les trois pièces de l'exposition de ce merveilleux peintre. Nous ne parlions qu'à voix basse. Puis j'ai commencé à leur parler de valeurs en peinture. J'ai commencé à leur parler de couleurs. J'ai commencé à leur parler... Et ces enfants étaient absorbés par l'exposition. Ils entraient dans l'étoile. Nous avons fait les trois pièces comme ça. Ils étaient en silence. Puis j'ai dit, c'est fini. Ils sont redescendus les escaliers. J'ai été me mettre à la porte d'entrée pour les saluer. Et là, c'est un souvenir mais qui me bouleverse, mais alors profondément. Au moment de partir, eux qui s'étaient conduits de la pire des façons, qui avaient fait toutes les bêtises possibles à l'entrée, ils sont passés devant moi en disant « Merci, madame ». J'ai encore des frissons quand j'y pense. Ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'on a les enfants qu'on mérite. Et que si nos gosses débordent parfois et font des choses insensées. C'est tout simplement parce qu'on a décidé de les abandonner, parce qu'on ne les aime pas assez. Voilà. Voilà un souvenir qui me... Mais bon, j'en ai plein, des souvenirs dans ce centre. Ce centre a été une pépinière de choses merveilleuses.
Peut-être, merci beaucoup pour ce beau souvenir. Peut-être Daoud, un petit souvenir.
Ça fait trop... ça fait pas assez de temps que je suis là pour en avoir beaucoup, mais moi, ce dont je me rappelle toujours, c'est ma rencontre avec Hawa Jabali et Ali Khodol le premier jour que je les ai rencontrés, parce que c'était un choc pour moi. J'ai trouvé des gens qui partageaient des choses, des valeurs et des idées avec lesquelles j'ai grandi toute ma vie et avec lesquelles c'était des idées qui m'avaient mis un peu dans un exil toute ma vie. Et je les ai rencontrés. La première chose qu'ils m'ont demandé, c'est qu'est-ce que tu fais là ? Et moi, j'avais tellement de raisons d'être là qu'il n'y a rien qui est sorti. Mais ils ont compris qui j'étais directement. Et moi, en fait, au centre, j'ai commencé dans un bénévolat religieux. Et voilà, pour moi, mon souvenir le plus fort, c'est ma rencontre avec ce centre, avec les fondateurs de ce centre, qui sont des gens absolument extraordinaires. Alors ça, c'est des gens absolument d'une profondeur et d'une humanité et d'une... Ce sont des intellectuels, ce sont des artistes avant tout, mais qui ont porté sur leurs épaules un projet qui nécessite bien plus qu'une âme d'artiste. C'est un projet que je le vois quand je suis là, qui a été très très dur à porter. Mais voilà, moi je les admire pour ça et je les remercie de m'avoir offert une maison. Voilà.
Merci.
Et maintenant, on va entendre une chanson de Saïd Darwish. Vous voulez dire quelque chose sur cette chanson ?
Moi, Saïd Darwish, il y a une chose très belle qu'on m'a dit sur lui, c'est qu'en fait, justement, Saïd Darwish, sa particularité, c'est qu'il chantait en arabe pour qu'on n'oublie pas l'arabe. C'était au moment de l'occupation ottomane. Et je crois que c'est d'actualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, on doit rappeler d'où on vient, on doit se rappeler d'où on vient et on doit rappeler aux autres d'où on vient, parce que la situation dans laquelle on est, je parle des pays arabes, c'est un trou assez profond.
Thank you.
Maintenant, on va poursuivre la discussion collective. Pourquoi avez-vous choisi ce nom, l'Institut européen de la culture et la langue arabe ou le Centre culturel arabe ?
Alors, le Centre culturel arabe, c'est ce qui était là en premier, c'est son nom historique. C'est avec ça que tout a commencé, ce nom-là. C'était un centre de théâtre, de littérature, comme Hawa a dit aussi, ça a commencé, c'était une bibliothèque. Mais petit à petit, c'est aussi devenu un centre de recherche. On s'est récemment tourné vers tout ce qui est académique. On essaye de vraiment... parce que comme on donne des cours, mais aussi on recherche une méthode. C'est-à-dire comme ce centre a 34 ans, ça fait au moins 15 ans qu'il donne des cours d'arabe. Il édite c'est son propre manuel d'arabe aussi, il a sa propre méthode. C'est une méthode qui a été développée sur le terrain. Aussi, les professeurs sont permanents, donc il y a vraiment une continuité dans la pédagogie et dans la manière d'enseigner. Mais donc c'est avec, cette rigueur que naturellement, on a un professeur qui enseigne à l'ULB et on se tourne vers l'académisme.
Mais on essaie de mettre l'université, on essaie de l'offrir à tout le monde. Hein. C'est très important que des connaissances qu'on dit universitaires, et c'est bien que les universitaires travaillent pour tout le monde, mais cette connaissance-là, il faudrait que ce soit accessible. Donc là, le centre est en train d'essayer de réaliser un effort dans ce sens. Et on pense qu'en construisant des colloques, en ayant, je pense,
les visioconférences.
Oui,
les
des choses comme ça et tout. On espère que ce sera vraiment un élan. Il faut que les gens sachent. Tout notre problème dans la vie, c'est ce qu'on ne connaît pas.
Avez-vous un événement à venir le 25 novembre ?
Oui, donc c'est l'événement dont on a parlé tout à l'heure, c'est la Nuit des Poètes. Donc ce 25 novembre, c'est la prochaine édition. Ça va être l'ouverture de la saison, de toute l'année. On va avoir des musiciens qui vont venir, et des poètes, et on va faire notre rituel mensuel, ce 25 novembre à 18h.
Oui. Entrer en poésie, ça aussi, on veut que ce soit ouvert à tous. Alors la poésie, c'est rarement, malheureusement, ce que nos enfants apprennent à l'école. La poésie, c'est un état d'être, c'est une harmonie, c'est un travail à la fois sur le son et le sens, c'est un travail sur l'image, le rythme et la musique intérieure. Et cela, ça devrait être vraiment accessible, et je dirais que chacun devrait pouvoir se l'approprier.
Les étudiants de la langue arabe, se sont-ils d'origine arabe ou d'autres origines ?
On a beaucoup, on a toutes les origines sont au centre. Les étudiants d'origine arabe, ils sont minoritaires, je vous dirais. Il y a beaucoup de gens qui parlent darija et qui se tournent vers notre centre pour apprendre justement l'arabe littéraire, le fosra. Mais la plupart des gens, on a beaucoup d'Espagnols, d'Italiens, de Belges, enfin de tous horizons qui viennent chez nous.
Comment peut-on rejoindre l'Institut européen de la culture et la langue arabe ?
Alors déjà, on a un site, c'est arabe-culture.com. Ici, vous trouvez toutes les informations sur nos cours, nos ateliers. Il y a aussi notre adresse. On peut nous contacter par mail, par téléphone. En général, ça commence avec les mails, ou alors vous pouvez passer, puisque le centre est ouvert tous les jours et c'est une entrée libre. Donc, vous pouvez passer découvrir, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail.
Il est au numéro 2 de la rue de l'Alliance, derrière la commune de Saint-Josse. Il est au coin de la rue de l'Alliance et de la rue Skelquin, pour ceux qui connaissent Saint-Josse. Le téléphone, vous voulez le téléphone ?
Oui, oui.
02 218 64 74.
روحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك فبك استباح الشعر يشدو أعذب الألحان يا روعة سلبت شغاف القلب في ترنيمها يا بلسما كم طيبت قلب الكثير العاني في مفرداتك هامت الأرواح حين استعذبت حرفا وقولا صادقا وفصاحة ومعاني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربي قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك فبك استباح الشعر يشدو أعذب الألحان كيف المديح يجيء إن كنت التي ومنك خير الدر والمرجان عربية يا ليت شعري هل ستوفي كلمة.
Avez-vous travaillé avec autre association?
Oh oui, ça fait le centre à 34 ans. Nous avons travaillé alors avec tous les grands organismes culturels de Bruxelles. Et d'ailleurs, en Belgique, nous avons travaillé avec beaucoup d'associations à Bruxelles, en province. C'était vraiment une habitude de travailler avec les uns et avec les autres.
Merci. Avant de conclure l'émission, Mohamed a l'habitude d'écrire une histoire philosophique, une histoire avec une morale. C'est son plaisir.
Juste un instant.
Bien sûr.
Juste un instant. Avant toute chose, nous avons été touchés de votre démarche. Vous nous avez invités et nous avons pensé qu'il y avait là un geste, je ne vais pas utiliser le mot politique, mais humainement, un geste intéressant. Voilà. Donc, l'équipe du centre vous présente tous ses remerciements.
De rien.
Merci. En tant que voisin, voisine, tenne nos doigts. Alors, on va écouter l'histoire écrite par Mohamed.
Maintenant, on vous présente une histoire amusante sous-titrée « Quel destrait ». Les collègues d'une organisation parfois se rencontrent. Et de quoi discutent-ils ? De leur volontariat et surtout de leur oubli. Catherine dit « Mon collègue Jean est le roi des personnes qui oublient. Quand il termine son bénévolat, il part directement. Il se dirige vers la voiture. Là, il commence à chercher ses clés dans toutes ses poches. Finalement, il se rend compte qu'il a oublié la clé de sa voiture dans le local. Il fait demi-tour. Comme la clé est sur une table tout près de moi, je la lui montre. »
Bart dit à Catherine, « Ton collègue Jean n'est pas le roi, mais le prince. Mon collègue Lisa est la reine des personnes qui oublient. Dernièrement, elle a acheté une robe. Elle n'avait pas le temps de l'essayer dans le magasin. Elle a été au local de l'organisation tôt avant de commencer le bénévolat. Et elle était en train de regarder le miroir. J'étais derrière elle. Elle a trouvé mon image dans le miroir et elle a pensé que c'était une autre personne. » Christina dit à Bart, « Ah, ce n'est que ça. Ta collègue Lisa n'est que la princesse des personnes qui oublient. Mon collègue François, lui, c'est le roi. Ça fait des années que je travaille avec lui. Moi, je suis toujours le premier qui arrive au local quand François arrive au boulot. Il me dévisage longuement. Je lui demande ce qui se passe et il me répond « Je crois que je t'ai déjà vu quelque part, mais je ne sais plus où.
» Écoutez, je crois vraiment que perdre ses clés, ce n'est pas un geste innocent. Oublier, ça n'est pas un geste innocent. Nous vivons actuellement dans des sociétés qui sont si complexes et si difficiles et si cruelles que l'oubli est une sorte de réponse à cela. Alors maintenant, je dirais que nous étions en train de parler de culture. Eh bien, justement, l'acte culturel, c'est l'acte de ne pas oublier.
Ça ressemble à une conclusion. En tout cas, on peut prendre ça comme un mot de conclusion. Daoud, est-ce que tu as envie d'offrir un mot de conclusion
ou... Ah, sur des mots comme ça, j'aimerais bien qu'on finisse sur ces mots-là. Ouais.
Alors, on n'en dit pas plus. Merci beaucoup de votre présence. Et sur Radio Panique, dans quelques minutes, ce sera l'émission Congo Nabisso. Donc on rappelle qu'on était sur Radio Panique 105.4 FM ou en streaming www.radiopanique.org. Merci Mohamed pour toute la préparation
de
l'émission. Et merci aux trois personnes de la rédaction qui ont fait leur première mise en onde, Jérôme, Laura et Céline, et qui ont même pris le micro pour vous poser des questions. Voilà, bonne suite sur Radio Panique et bonne soirée à vous tous et à vous toutes.
Bonne soirée.
Merci.
Radio Panique. Vous êtes le seul auditeur.
La seule auditrice. Léa, seule auditrice. Seul auditeureux. Léa, seule auditrice. Vous êtes tous à l'écoute. Radio Panique, inclusive, en chantier.
Nous comptons sur vous.